France Inter. Frédéric Mettezeau. Le 6-9 de l'été.
L'heure du grand entretien de la matinale de France Inter jusqu'à 9h moins le quart. Il avait déjà reçu le Nobel de l'architecture, le prix Pritzker. Le voilà auréolé du Premium Imperiale dans la catégorie architecture. C'est là l'équivalent d'un Nobel des arts, remis aussi cette année à Catherine Deneuve dans la catégorie cinéma. Bonjour Christian de Port-en-Part.
Bonjour.
Vous êtes architecte et urbaniste, la Cité de la Musique à Paris, l'ambassade de France à Berlin, porte de Brandebourg, le chai du château Cheval Blanc à Saint-Émilion, la tour L à Lille ou la nouvelle Arena U à La Défense. Tout cela, c'est vous. Vous êtes Christian de Port-en-Part, lauréat d'un prix artistique. L'architecture est un art. L'architecte est-il un artiste? Êtes-vous un artiste?
Oui, c'est pas une chose que je dis avec prétention. Je dis que l'architecture, c'est un art public. C'est un art où on a une responsabilité. Alors que les autres arts, on peut dire qu'on leur demande aux artistes d'être des absolus. Des esthètes pures. En tout cas, on leur demande le fond absolu de ce qu'ils veulent écrire, ou dire, ou peindre, ou filmer. Et là, ce que l'on fait quand on fait un bâtiment, quand on travaille sur un quartier, ça s'impose. Ça s'impose à beaucoup de gens.
Ça rentre dans la vie des gens.
Ça rentre dans la vie des gens. Et donc, il est normal que les gens disent « Attention, est-ce que vous allez nous faire là ?» Et on s'explique, on parle. C'est ça ce côté public.
Architecte et urbaniste. Urbaniste, c'est un mot important. Il n'y a pas que le bâtiment, il y a aussi son environnement, il y a aussi tout le projet de vie, le projet de ville.
J'ai toujours trouvé que réussir un quartier, c'est plus difficile et plus important qu'un bâtiment. Voilà. Et c'est ce que... Je dirais que dans les années 70, je trouvais qu'on avait raté, qu'on ne savait plus faire un quartier qui vit de façon naturelle. On faisait ce qu'on appelait dans les jargons des architectes les plans masses, et on a fait toutes ces cités de bars et de tours où l'espace commun est triste et ne marche pas, et où il n'y a pas les commerces, il n'y a pas... voilà, on a des parkings et des bars.
Précisément, faire les cités, faire les quartiers, faire du logement social, il y a une polémique qui monte et vous faites partie d'un collectif d'architectes qui a signé une tribune dans le journal Le Monde contre la future loi Élan qui est en débat au Parlement. Pour faire simple, cette loi souhaite que pour construire du logement social, on ne passe pas forcément par un concours d'architectes. Pourquoi c'est important de garder ces appels à projets confier, demander à des architectes pour faire du logement social, ben, ça irait pas plus vite?
Précisément, j'ai dit c'est un art public. Il y a une loi dans laquelle qui a changé les choses en France. L'architecture était faite. Ce qui est écrit aujourd'hui, c'est aller plus vite, moins cher et soi-disant mieux. L'idée d'aller vite et moins cher, on l'a eu dans les années 50, 60. Même 70, si vous voulez. C'est une architecture quand même dont on se plaint aujourd'hui.
La sarcellite.
Oui. Et on comprend, il y avait un manque. Le cri de l'abbé Pierre, c'est un manque de logement. C'est beaucoup de gens qui sont dans des taudis ou qui sont dans les bidonvilles. Donc, il y a eu une grande efficacité, rapide, extraordinairement rapide, avec des constructions qu'on ne voudrait plus aujourd'hui faire. On ne veut pas revenir à ça. Alors, dire que le concours prend 8 mois, je suis... sûr que ça prend moins si on veut. À mon avis, alors je vais dire, il faut garder une forme de concours oral, pas ces gros trucs anonymes. On peut faire beaucoup plus léger, mais il est très important. Je comprends, je vais résumer, que les promoteurs, il s'agit là dans la loi des promoteurs de logements sociaux. Hein, je comprends qu'ils veuillent aller plus vite. Je comprends aussi qu'ils veuillent choisir leur architecte, que ce ne soit pas un concours où ils ont quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et avec qui ils vont se disputer pendant 5 ans. C'est très important qu'ils choisissent, mais qu'ils ne choisissent pas seuls, qu'il y ait un débat, qu'il y ait une discussion, qu'ils connaissent des nouveaux qui débutent, des jeunes, à chaque fois. Donc inviter 5-6 architectes, leur parler, ça va leur prendre 2 jours et pas 8 mois. Vraiment, ça c'est... c'est stupide de dire qu'il faut garder les concours lourds et qui...
Un peu plus de fluidité. Christian de Porzempart, je vais me faire un peu l'avocat du diable. On parlait d'aller vite. Le gouvernement parle aussi de faire, dit aussi qu'il faudrait faire moins cher. Quand vous signez cette tribune, vous défendez le beau ou aussi vous défendez votre gagne-pain parce que les architectes ont besoin de ce genre de marché pour vivre?
Non, je ne défends pas du tout un gagne-pain ni une corporation. Bien sûr, il faut qu'elle puisse travailler bien, mais la question, c'est devant tout le monde, qu'est-ce qui est important? Et je dis, c'est ce caractère public de l'architecture. Elle s'impose, elle est imposée aux gens. Pour cela, il faut qu'il y ait, dans la façon dont on procède, il y ait justement cette expression de l'intérêt public. Un maire qui donne le permis de construire, il représente l'intérêt public. Il faut qu'avant le permis de construire, la façon dont on constitue le projet, quel en est l'architecte et tout ça, ça puisse être suivi. Donc il y a un tas de formules neuves qui apparaissent aujourd'hui. Par exemple, très souvent, nous travaillons parce qu'un promoteur, un grand groupe vient nous chercher pour présenter à une ville un projet. C'est tout à fait nouveau. Il n'y a plus d'argent public. Avant, les villes faisaient une ZAC, comme on dit, ils achetaient plein de terrains et pendant 10 ans, 15 ans, ils construisaient peu à peu, ils faisaient un plan d'urbanisme. Ils n'ont plus l'argent pour faire ça. Que des grands groupes fassent ça et demandent à des architectes de travailler avec eux, ce n'est pas mal en soi. Et nous soumettons des projets en compétition contre d'autres groupes. C'est une nouvelle façon de travailler. Mais il faut aussi que cette nouvelle façon, elle soit... Le caractère d'intérêt public soit vraiment présent.
On en reparlera avec les auditeurs parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions sur ce thème au standard, au 01 45 24 7000. J'aimerais juste, Christian de Porzempart, qu'on se projette un peu dans le passé. Jusqu'au 19e siècle, début 20e, les architectures étaient typées. On savait, en regardant un bâtiment ou un matériau, qu'on était à Paris, à Rome, à Londres, à Bruges, à Marrakech. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas, moi, que l'architecture est peut-être un peu plus interchangeable. On a fait exploser les codes et les matériaux. Telle tour de verre et d'acier pourrait très bien être à La Défense, à la City à Londres ou à Singapour.
J'ai le sentiment de faire un peu le contraire, de m'adapter à chaque site, à chaque culture. Et j'ai construit en ce moment en Chine des grands bâtiments d'opéra. J'ai construit au Brésil, j'ai construit à New York, je ne peux pas dire, et ailleurs, au Japon, actuellement je travaille à Hambourg, en même temps qu'en France. Je ne peux pas dire qu'à chaque fois c'est la même chose.
Mondialisation ne veut pas dire standardisation.
À chaque fois vous avez quelque chose de très unique, vous avez un site, vous avez une histoire, vous avez une économie, une façon de construire, une technique. Donc c'est pas on doit pouvoir ne pas avoir cette chose-là. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de concours. S'il n'y avait pas eu cette loi de 77 qui a dit tout d'un coup, l'architecture, c'est un art, mais c'est un art public, c'est une activité d'intérêt public, ça a changé l'architecture en France. Vraiment, cette loi a changé. Moi, s'il n'y avait pas existé cette loi, je ne serais pas là à vous parler. Je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. J'ai commencé par des concours de logements sociaux. Mais pas seulement moi, mais Jean Nouvel, mais Dominique Perrault, mais 400 architectes, je ne sais pas, qui ont travaillé pendant 40 ans en France à faire le paysage de nos villes, qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde, on dit que l'architecture en France est une des meilleures du monde, qu'il y a des bons architectes, qu'on fait bien.
Qui récolte des prix.
Et vous voyez, mes confrères aussi ont récolté des prix. C'est vous dire qu'il y a eu un essor, il y a un enseignement qui est de meilleur en meilleur. Et ça, c'est très important. Ça a changé beaucoup de choses pour nos villes. Ce qui s'est passé avant cette loi de 77, on disait que l'architecture était nulle en France. C'était dit quand on allait à l'étranger, quand on allait en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. On racontait ça. Je me souviens les premiers mots des Japonais qui sont beaucoup venus, qui ont beaucoup fait pour l'architecture dans les années 80, au niveau mondial, si vous voulez. Donc il y a eu un changement. Il faut faire attention à ne pas le... Alors, on va me dire, la loi Elan, ça porte que sur les logements sociaux. Oui, mais c'est un signe. C'est important, ces logements sociaux. Il n'y a pas de raison qu'on dise c'est social, donc on va les faire sans architecte, on va les faire de façon médiocre.
Précisément, les auditeurs ont beaucoup de questions à vous poser, Christian de Porzempart.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Bonjour Christophe.
Oui, bonjour, moi j'ai une question toute simple. C'est quoi la différence entre un architecte et un urbaniste?
Merci Christophe. Christian de Porzempart vous répond.
L'architecte construit un bâtiment. Il dessine les plans, il va suivre sa construction, son chantier, avec un ingénieur, deux ingénieurs avec un groupe. L'urbaniste est chargé de concevoir un morceau de ville, un quartier, d'intervenir sur ce qui est encore plus commun et collectif, de dessiner même la voirie, avec un paysagiste de faire le parc qui va et de décider où va être l'école, où vont être les commerces. Il va faire ou non une place, une rue, il va faire un endroit qui va... Il va continuer la ville, essayer de s'accorder à elle, de la rendre vivante. Donc, vous voyez, c'est très important, urbaniste.
En gros, l'architecte fait le micro et l'urbaniste fait le macro.
Oui.
Nous sommes en ligne à présent avec Antoine. Bonjour Antoine, soyez le bienvenu sur l'antenne de France Inter.
Oui, bonjour. Antoine Daudré-Vigny à l'appareil. Je voudrais d'abord remercier et saluer mon confrère Christian de Banzampart, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'affection, parce que c'est un très grand architecte. Ce qui est en cause dans ce qui vient d'être dit sur la loi Elan, c'est la mise à bas de la fonction de l'architecte dans la société, qui est dépositaire d'une délégation de mission de service public. Le concours, ça prend pas 8 mois, c'est pas vrai. Un concours de logement en marché public, c'est 5 semaines. 5 semaines, c'est très court pour concevoir et développer un bâtiment. Les architectes aujourd'hui en France sont désespérés, car l'État est en train de les chasser de la commande publique pour laisser les bétonneurs refaire ce qu'ils ont fait, comme disait notre confrère, dans les années 70, et avec des résultats effroyables.
Merci beaucoup Antoine. Christian de Panzampar va vous répondre, parce qu'on n'entendait pas très bien, mais on a saisi l'essentiel du message. La loi Elan risque, selon Antoine, qui est un de vos confrères, Christian de Panzampar, cette loi Elan risque de confier l'architecture non plus aux architectes, mais aux bétonneurs.
Il y a véritablement ce danger. La loi ne met pas tout ça en place directement, mais le danger est là, puisque il y a beaucoup d'éléments dans la loi. C'est une loi très compliquée, c'est 400 pages, c'est beaucoup d'articles. Tout le monde peut s'y perdre. Et donc, je ne prétends pas que je la connais par cœur et que j'ai analysé et que j'ai préparé les amendements précis. Je pense qu'on peut alléger les concours. C'est vrai que ça doit ne pas durer les prétendus 8 mois. Mais il est évident qu'il faut garder ce rapport correct qui fait que l'architecte, il ne travaille pas que pour un client. Ça, c'est une chose que tous, on a compris dans ma génération. On construit un bâtiment. Des gens vont y habiter. Celui qui commande le bâtiment, qui est un promoteur privé ou public, oui, on l'écoute, on va faire le mieux possible, on va s'entendre avec lui, on va peut-être lui apporter le meilleur, il est content. Mais on ne travaille pas seulement pour faire ce produit-là, logement, on travaille pour quelque chose qui va être imposé, comme vous l'avez dit, à tout le monde, qui est là dans la ville. Eh bien, cette fonction de qu'est-ce qu'on va faire sur le site, sur le lieu, vous voyez, pour nous est très importante. Alors, supprimer l'architecte, c'est supprimer toute attention au site et aux villes. Donc, c'est déjà le début d'une sorte de dégradation, parce que, si vous voulez, quand vous voulez faire seulement moins cher et plus vite, comme c'est dans la loi, que l'intention de la loi, c'est de faire ça, mais vous ne regardez pas. On dit même dans la loi que le défaut des concours, c'est que ça s'occupe trop de l'esthétique. Mais c'est ridicule! Dans les concours, dans ce qu'on fait sur l'architecture, on s'occupe de la construction, du bas carbone, de l'économie, d'énergie. Et tout cela est évidemment en compte. Et ça contribue aussi à l'esthétique. Vous voyez, on est en train de dire, oui, ce sont des capricieux, les architectes, ça va nous coûter cher, c'est long, et en plus, ils s'occupent que d'esthétique. Mais écoutez, on a trop de gens à loger. Oui, c'est un discours que l'on a connu autrefois. Mais on peut pas retomber là-dedans. Et ce n'est pas vrai que ça coûte plus cher.
On retourne au standard. Bonjour, Laure.
Oui, bonjour. Je suis tout à fait convaincue que les centres-villes sont parfois rénovés avec de belles architectures comme le Mucem à Marseille, etc. Ce que je voudrais savoir, c'est comment, est-ce qu'on considère le passant? Le passant, il va à Marseille au Mucem et c'est magnifique, c'est très beau. Et puis il va se promener sur le port et à partir du mois de juin, il crève de chaud. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un arbre. C'est-à-dire qu'on a tout misé sur l'esthétique dont parlait votre architecte il y a 2 minutes, et on s'est pas mis à la place du passant. J'ai un neveu et un oncle architecte qui disaient, un bon architecte, c'est celui qui pense à celui qui va habiter ou travailler dans dans ce qu'il construit. Et ben, je vais vous dire, pour l'architecte urbain, c'est la même chose, il faudrait qu'il se mette à la place du passant. Le passant, il a besoin de bancs et d'ombre dans les villes du Sud, et il a besoin d'arbres. Voilà.
Merci
donc,
beaucoup.
C'était juste ça.
Merci beaucoup pour votre question, alors. Christian de Port-en-Part.
Je répondrai que c'est ce que nous faisons tous, de penser. Moi, je ne pense qu'aux passants, aux vélos et aux passants, et même à l'enfant, si vous voulez, quand on fait un travail sur une ville. Donc, c'est tout à fait vrai, cela. Et si ça n'a pas été fait, ça veut dire que les architectes et les ingénieurs et les villes, à certains moments, se trompent. ils sont pas tous bons. Il faut qu'ils puissent travailler, mais bien sûr, c'est humain. Il y en a qui ont fait des choses qui ne marchent pas. Et c'est à tout le monde de faire très attention. C'est pour ça que c'est public et ça doit être, comment dire, discuté, débattu en public. Moi, presque toutes les opérations que je fais, on doit les présenter à des associations d'habitants. Ça ne nous énerve pas. C'est souvent même très fructueux. Il y a des questions, on dit « tiens, ça c'est vrai que c'est intéressant, on pourrait apporter cela et cela ouais, ». C'est basique, je trouve.
On retourne au standard. Bonjour Virginie.
Oui, bonjour. Je vous remercie pour l'intérêt du débat. Je trouve les propos très très pertinents. J'en profite juste pour faire un petit coucou à Lucie qui m'écoute et qui est fan de France Inter. Bon,
bonjour Lucie. Quelle est votre question, Virginie, s'il
voilà,
vous plaît?
Ma question est la suivante. En fait, je voulais avoir le point de vue d'un architecte. Il a déjà en partie répondu à ma question, mais sur justement ces barres d'immeubles qui pour moi correspondent à un habitat un peu déshumanisant. Où il y a quand même une certaine laideur. Moi, j'ai habité dans ces bars-là, où effectivement le décor est laid, quoi, et où on a tendance justement à s'identifier à l'environnement dans lequel on vit.
Des bars des années 60-70, Virginie, vous voulez dire?
Ouais, c'est ça, tout à fait. Oui. Quand à l'issue des 30 Glorieuses, quand il y a eu à un moment donné une construction massive de logements, parce que ça correspondait aux besoins du moment, hein, avec l'explosion démographique, etc.
Ouais. Et donc, des logements. Question, oui, autre question.
Alors ma question est la suivante, c'est que je voulais demander à l'architecte s'il devait apporter une rénovation par rapport à cet habitat, notamment s'il devait faire des préconisations dans le cadre du plan banlieue Macron. Bourleau, excusez-moi le jeu de mots douteux, plan foireux, mais bon justement, qu'est-ce qu'il préconise?
On a bien saisi Virginie, merci beaucoup. Christian de Porzamparc, comment rénover, comment réhabiliter ces bars? Ça a déjà commencé il y a une quinzaine d'années, mais il y a encore beaucoup à faire.
Oui, ces bars sont venus d'une époque, de l'après-guerre, où la théorie urbanistique, il y en avait une, qui s'appelait la Charte d'Athènes, c'était une grande théorie que tous les architectes du monde ont respectée. La Charte d'Athènes disait, il ne faut plus faire de rue. La rue, Le Corbusier disait « mort à la rue ». C'était un très grand architecte, mais en même temps, sa théorie urbaine...
s'appelait le zonage.
Sa théorie urbaine, je peux dire, est catastrophique. Il a dit « les voitures sont reines, il faut qu'elles aillent vite. Après, vous avez, de ces voies rapides, partent des bretelles que vous connaissez dans toutes nos périphéries de villes. »
Toutes les villes nouvelles, notamment.
Oui, notamment. Vous sortez d'une bretelle et vous trompez dans un entremêlas de voies qui vous mènent à des ronds-points ou à des impasses.
C'est tout ce qu'on voit dans le film « I comme Icare » d'Henri Verneuil.
Voilà. Et vous voyez, la rue, c'est un outil qui a 2000 ans et plus, 2500 ans, et qui est une chose merveilleuse, qui est une chose du futur aussi. La rue, c'est le moyen de relier tout le monde sur une même ligne et de relier la diversité et les différentes époques qui vont se croiser. Eh bien, ça donne à la ville un caractère pluriel et en même temps intime, parce qu'une rue, ça se poursuit, ou même une avenue qui est extraordinaire. Donc, nous essayons de réhabiliter, de transformer des quartiers comme ça. Quelquefois, il y a des bars qu'il faut démolir. J'ai eu l'occasion de dire, celle-là, il faudrait l'enlever. Elle enlève du soleil, on n'est pas bien. Et puis, on reconstruit et on refait. On essaye de refaire des espaces publics, des îlots, si vous voulez, dans des lieux où il y a ces séries de bars.
Et essayer d'en finir avec les dalles. C'est des bâtiments qui sont en hauteur, qui ne sont pas à la rue, justement.
Voilà. Alors, c'est vrai que l'urbanisme sur dalles n'a très, très rarement marché. Il y a des cas exceptionnels où ça marche. On n'est pas contre du tout des transformations, des nouvelles formes d'espace. C'est pas un retour au passé. Le retour au passé ne marche pas. Mais c'est une invention où on tire les leçons du passé, le meilleur. Et on ne dit pas que la rue, il faut la supprimer, juste parce qu'elle est historique, si vous voulez. Il y a eu, dans la génération qui nous a précédé, une idée que tout ce qui est historique, il faut l'enlever pour être moderne. C'est la leçon léniniste. On ne peut construire le nouveau qu'en éradiquant le passé. Ça a marqué...
C'est la destruction-création.
Oui, mais ça a marqué...
Appliqué à l'architecture.
Oui, si vous voulez. Mais la destruction a été vue... Deux villes se sont affrontées pendant des décennies. La ville moderne qui avançait... Je me souviens, j'étais adolescent à Rennes, je voyais les bataillons d'immeubles HLM blancs et propres qui s'avançaient vers la ville, comme ça, et qui étaient... sur le territoire où il y avait encore les fermes en terre ocre. Et c'était moi, je trouvais ça formidable. Je voyais le futur qui arrivait. Et puis, j'ai réalisé, quelques années après, que c'était pas aussi vivant, que ce serait jamais aussi vivant. et aussi transformable que la ville. Vous voyez que c'était des
espaces...
Et que
le futur était devenu sacrément périmé très vite.
Le futur, c'est périmé. On a eu un futur antérieur, oui.
Exactement. Catherine, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous. Ben oui, ça tombe bien. Les HLM qui vont vers les fermes. Justement, moi, j'avais envie de vous demander s'il était possible de... Enfin, s'il serait possible d'avoir un espèce de comité de surveillance sur l'architecture dans le milieu rural, parce que là, franchement, on voit des choses complètement aberrantes, hein, des lotissements qui sont sans rapport avec l'habitat traditionnel, avec des matériaux évidemment très bas de gamme.
Standardisés.
Pardon ?
Des matériaux standardisés.
Ah bah oui, complètement.
Merci Catherine. Christian de Port-en-Part va vous répondre. Il nous reste seulement 2 minutes. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'architecture urbaine. Il y a aussi une architecture à la campagne.
Oui. Et en plus, on s'inquiète souvent que les villes deviennent s'avancent sur la campagne, bouffent des territoires qui devraient rester des territoires agricoles. Mais ça, c'est une autre question. Mais vous avez raison sur les campagnes. Vous savez, les maires ont une grande responsabilité. Souvent, ils nous disent « je suis un peu perdu, je ne sais pas comment prendre ça ». Ils deviennent maires et tout d'un coup, ils ont une responsabilité très grande sur les permis de construire, sur l'architecture. Il faut les aider. Il a été formé des conseils pour les aider. Peut-être qu'ils marchent pas. Dans certains endroits, ils marchent très bien, dans d'autres, ils marchent moins bien. Des conseils d'architecture qui ont ce rôle de vérifier, d'examiner, de conseiller, de dire non à certains types de construction. Mais à la fin, c'est quand même le maire qui donne le permis de construire. Donc ça devrait marcher, sauf que les maires, quelquefois, ils disent « écoute, moi je suis médecin, je n'y connais rien, j'ai besoin de conseiller ». Il faut. Et c'est vrai que si les régions, je ne sais pas comment le faire, comment l'organiser, mais vérifier que les maires ne sont pas perdus en face de ce truc. Ils arrivent, ils sont perdus, ils se disent « qu'est-ce que c'est la différence entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre ?» Ce jargon énerve tout le monde, alors ils ne savent pas comment... Accrochez, si vous voulez.
Dernière question d'auditeur. José, via l'application franceinter.fr, nous demande pourquoi il n'y a pas de sensibilisation à l'architecture à l'école.
Ah.
C'est vrai, les enfants jouent au Lego, au Capla, au jeu de construction.
Mais c'est On pourrait aller plus loin. Mais c'est très important. On apprend la langue. Et vous savez, les villes, notre architecture, l'espace, c'est aussi important que la langue. Nous sommes des êtres de langage. Mais nous sommes aussi ces êtres d'espace. Dès que nous sommes nés, nous sommes dans l'espace.
Et on construit.
Nous communiquons, nous construisons, nous fabriquons. Et donc, montrer l'importance de cela à l'école, ce serait très important. Et c'est facile parce que c'est beaucoup de jeux, c'est beaucoup d'émotions aussi. Donc, ce serait facile à faire.
Et vous en parlez très bien. Merci beaucoup, Christian de Port-en-Part, d'avoir été l'invité du grand entretien de France Inter.
Merci.
Bonne journée et bel été. Il est 9h moins le quart.